Merci Marie, à demain.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un premier épisode d'une série qui va nous conduire jusqu'à jeudi sur la route de George Sand. George Sand, née Aurore Dupin, n'a pas fait comme son ami Balzac, qui a sacrifié sa vie à son œuvre. Elle est au contraire de ce petit nombre de personnes qui cherchent à rendre les choses meilleures pour elle comme pour les autres, dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient publics comme privés. Ce fut le cas dans le domaine politique, de par ses prises de position en faveur des femmes ou pour une meilleure justice sociale, à une époque qui en avait grand besoin. Nous en parlerons demain avec l'historienne Michèle Perrault. Mais George Sand, n'en oubliez pas moins le Berry, où elle est née et où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Un pays de légendes et de sorcières, ce sera notre sujet de mercredi avec l'historien Vincent Robert. Nous évoquerons en particulier le livre La Petite Fadette, un mi-chemin entre le récit psychologique et le roman champêtre. Et enfin, comme dans le privé, elle ne négligeait pas l'amitié, nous nous plongerons jeudi dans son immense correspondance faite de 18 000 lettres envoyées à ses proches, comme à des gens comme Flaubert ou Victor Hugo. Victor Hugo, Thierry Baudin nous en parlera. Et qu'en est-il d'aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, comme chaque lundi, c'est le moment du parcours biographique et j'ai le plaisir de recevoir Martine Reed, grande spécialiste de la littérature du 19e siècle, qui a écrit sur Stendhal, Flaubert et bien entendu sur Sand. Sand à qui elle a consacré en 2013 une biographie parue chez Folio Gallimard et avec qui nous allons retracer les années de cette femme qui a eu toutes les audaces. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Elle a été la voix de la femme en un temps où la femme se taisait. Elle a parlé de la musique aussi bien que Stendhal et bien mieux que Balzac ou Hugo. Elle a décrit la vie des paysans français avec une grandeur tantôt idyllique, tantôt épique. Elle a éprouvé et exprimé un amour sincère du peuple bien avant que le suffrage universel n'imposât cette attitude. « Je ne suis pas, disait-elle, de ces âmes patientes qui accueillent l'injustice avec un visage serein. » Elle a, dans l'Iliade, abordé la première des problèmes sensuels que l'on commence seulement aujourd'hui de traiter avec franchise. Enfin, elle a été dans ses meilleurs jours le roman même, et le début de Consuelo demeure un des récits les mieux construits de notre littérature. Tout cela fait un sujet trop vaste et trop riche pour qu'il soit possible de l'épuiser en 5 conférences.
Et cette vie si riche qu'André Mauroy ne peut pas l'épuiser en 5 conférences, nous ne pourrons certainement pas le faire en 4 émissions, mais nous allons tout de même tenter un panorama de sa vie aujourd'hui. Bonjour Martine Reed.
Bonjour.
Quel incroyable personnage que George Sand tout de même, qui est sur tous les fronts, qui est une femme, une mère, une personnalité engagée, et aussi évidemment une écrivaine, et tout cela avec, semble-t-il, beaucoup de succès.
Oui, assurément. Alors... Par où commencer ?
Sur le succès.
Sur le succès. Le succès est absolument considérable et commence dès 1832 quand George Sand publie Indiana. C'est pour l'occasion d'ailleurs qu'elle va utiliser cet étrange pseudonyme autour duquel elle va vraiment construire sa personnalité littéraire. Et le succès ne va pas se démentir. Un succès de scandale en partie, un succès d'estime aussi. Il va durer jusqu'à sa mort en 1876.
Mais alors, elle provoque l'admiration, elle provoque aussi beaucoup l'agacement. C'est un peu l'histoire de la vie de George Sand.
Elle provoque l'agacement, elle provoque l'hostilité véritable. Et on pourrait faire la liste des insultes particulièrement attachées à sa personne. Donc c'est là qu'on voit quand même que le fait que c'est une femme n'est pas anodin dans ce parcours, bien entendu, puisqu'il va y avoir... d'inlassables insultes de gens célèbres par ailleurs et qui vont justement considérer que sa prose n'a pas le moindre intérêt, que sa conduite est lamentable, etc.
Alors Lautréamont, par exemple, se moquait d'elle. Il a écrit « George Sand est un hermaphrodite circoncis ». C'est pas très chic quand même.
Non, mais il y a d'autres exemples encore. Jules Renard la traitera de vache à roman, Baudelaire de latrine, etc. Donc les insultes sont effectivement absolument étonnantes aujourd'hui.
Oui, de la part de personnes dont on n'attend pas quand même ça.
Non, qui ne traitent certainement pas leurs homologues masculins de la même manière.
Donc c'est comme ça que vous l'expliquez ? C'est parce que c'est une femme et uniquement pour cela ?
C'est en tout cas une partie de du problème. Après, on peut évidemment aimer un peu, beaucoup, pas du tout les ouvrages. Ça c'est une affaire de goût, disons. Mais la violence, je pense, des attaques est notamment due, quand on voit aussi tout l'aspect caricature, par exemple, puisqu'elle a été beaucoup représentée en pantalon, fumant le cigare, smoquant tout le monde, etc. Incontestablement, elle a été la grande exception dans un milieu qui est très largement masculin.
Enfin, quand même, Baudelaire, Lautréamont, quelle déception.
Ah, oui, peut-être.
Alors, vous le disiez, elle s'est choisi un pseudonyme, George Sand, pseudonyme qu'elle se choisit à 27 ans et qui étonne beaucoup les collégiens quand on leur fait lire du George Sand et qu'on leur apprend que, en fait, c'est une femme. Ce pseudonyme, ça semble être vraiment la pierre sur laquelle elle a bâti toute sa vie. Martine
Oui, c'est une des caractéristiques, à mon sens, tout à fait fascinantes, que cette capacité, d'abord, d'inventer un prénom anglais, tout de même, elle l'écrit un temps avec un S, mais très rapidement, elle l'écrit George, en réalité.
Et puis Sand aussi.
Qui est donc emprunté à Sando, mais qui est qui a une connotation anglaise, évidemment. Donc, elle se construit cette sorte de phonétiquement de cette chose bizarre qui n'est pas très française et à partir de laquelle donc elle va réellement construire non seulement une œuvre littéraire mais aussi sa propre personne et je trouve tout à fait intéressant de savoir que George Sand est la seule dans les très rares auteurs qui ont pris des pseudonymes à imaginer que ses enfants vont porter ce faux nom hein, puisque après on a Maurice Sand, Solange Sand et les petites filles aussi de son fils qui vont porter ce nom qui n'en est pas un, qu'elle a construit dans une espèce de, comme une espèce de matronyme en quelque sorte, qui pourrait se transmettre. Et là, si on regarde Colette par exemple, qui est un autre exemple de pseudonyme, Colette n'a jamais imaginé de faire pareil.
Mais pourtant, au départ, si elle choisit ce pseudonyme, c'est effectivement parce qu'elle souhaite être prise davantage au sérieux et donc qu'elle souhaite prendre un pseudonyme masculin. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas, au départ, cette espèce de volonté d'indépendance dont vous parlez là. Au départ, ça semble très pratique.
Oui, on pourrait dire qu'au départ, elle cède à la mode de prendre un pseudonyme, en particulier dans les activités journalistiques. Or, elle commence avec Jules Sandeau et on leur a trouvé un nom.
Donc, Jules Sandeau, qui est son amant.
Oui, qui est son amant du moment, avec laquelle, justement, elle s'est installée à Paris en 1831. Ils prennent ensemble une sorte de nom de plume qui ne surprend personne parce que, justement, d'abord, ils publient dans une petite revue satirique. Donc, on est bien dans la pseudonymie de journaux. Et petit à petit, alors, quand elle a l'idée de construire une œuvre de quelque sorte, ça va venir par étapes, elle va choisir ce nom de George Sand. Et comme vous dites, elle va petit à petit, au fond, asseoir une réputation littéraire grâce à ce pseudonyme et puis s'identifier tout à fait à cette identité d'emprunt.
Et alors, c'est quand même un nom d'homme pour une femme qui s'habillait déjà en homme, dont la mère, en fait, lui avait même conseillé de s'habiller en homme parce que c'était plus pratique. Et puis, une femme qui a pour les femmes, autant que pour les hommes, des sentiments qui peuvent être amoureux.
Oui, alors on peut, je pense, raisonnablement trouver dans l'enfance de George Sand des raisons qui ont curieusement compliqué les questions d'identité et de ce qu'on appellerait aujourd'hui justement le sentiment d'une appartenance sexuelle déterminée. On sait que sa grand-mère a souhaité, par exemple, puisque elle voyait en George Sand son fils Maurice qui était décédé brutalement à l'âge de 30 ans, quand d'ailleurs la petite Aurore avait 4 ans, elle appelle son fils Maurice, évidemment, mais elle appelle aussi sa petite fille Maurice. Et George Sand commente cette étrange situation qui consiste à être aussi un garçon, à être éduqué en partie comme un garçon, etc. Donc je pense qu'il y a réellement, et sans entrer trop dans le détail, justement une sorte d'instabilité à ce niveau qu'on va retrouver dans sa vie, et entre autres par le choix d'un pseudonyme masculin, parce qu'après tout, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, elle, en tant que femme, il n'était pas nécessaire de prendre un pseudonyme. Il y a d'ailleurs très peu d'exemples à la même époque, et il n'était pas nécessaire non plus de prendre un pseudonyme masculin.
Mais cela lui permettait, de même que quand elle s'habillait en garçon, ça lui permettait de ressembler à, dit-elle, un étudiant de la Sorbonne et d'avoir une vie de garçon, de pouvoir sortir, de pouvoir aller au concert.
Oui, c'est quelque chose que les historiennes de la vie privée ont bien mis en avant, et Michel Perrault notamment, cette difficulté pour les femmes d'occuper une place dans l'espace public. Et donc, George Sand fait valoir qu'elle ne peut pas sortir seule, habillée en femme, pour la bonne raison que sinon, aussitôt, elle est accostée, elle est l'objet de toutes sortes de remarques désagréables. Et donc, si elle veut entrer au théâtre, si elle veut entrer dans le bureau d'un directeur de revue, il faut absolument qu'elle soit aussi discrète que possible, et la discrétion passe par un costume masculin.
Alors vous évoquiez, Martine Reed, les calomnies à l'endroit de George Sand. Ces calomnies, elles remontent jusqu'aux oreilles de son fils Maurice quand il est en pension. On le comprend à la lecture de cette lettre qu'elle lui envoie en 1836.
Ton père veut que tu sois élevé au collège et sous plusieurs rapports, il a raison. Tout ce que tu souffres est nécessaire pour que tu sois un homme, pour que tu apprennes à discerner le bien d'avec le mal, la vraie joie d'avec la peine. Quant à ce qu'on peut te dire de moi, ne t'en occupe pas. Je sais que mes écrits font beaucoup parler et qu'on parle de même par curiosité et par oisiveté de tous les gens qui écrivent beaucoup. On en dit toutes sortes de choses folles et absurdes qui doivent faire rire et rien de plus. Quand on dit ces choses en ta présence, tu as une réponse bien simple à faire. C'est ma mère. Avez-vous envie d'en dire du mal devant moi et croyez-vous que je puisse l'entendre? Alors tourne le dos et va-t'en. En attendant, garde ta fierté comme un trésor. L'honneur existe déjà pour ton âge. Déjà, on peut se salir et se déshonorer en secret par des actions, par des paroles et même par des pensées indignes de la dignité humaine. Si ces pensées te venaient jamais malgré toi, ce que je ne crois même pas, élève ton âme vers le ciel. Songe aux anges gardiens, à ta sœur, aux belles fleurs de Nohant, à la mousse de nos bois, à tout ce qui est pur et riant. Tu trouveras alors le vice si laid que tu cracheras dessus. Adieu, mon petit ange.
Ce sont des mots de consolation, évidemment, pour un enfant, mais il y a fort à parier qu'elle a trouvé le combat tout de même difficile. La vie de George Sand est une vie difficile, Martine Reed.
Oui, c'est une vie difficile qu'elle essaie de maîtriser autant que possible, et elle a des mots qu'on entend justement dans la lettre que vous avez choisie, c'est-à-dire le souci toujours de préserver des sortes de parenthèses heureuses. Et elle va dire qu'au fond, toute sa vie, elle a rêvé d'un univers poétique pour se protéger des attaques de l'extérieur. Et je pense que ce qu'on a parfois appelé l'idéalisme de George Sand, justement, qu'on lui a un peu reproché parfois, c'est très fondamentalement une position de repli nécessaire face à une vie très chaotique, à une vie professionnelle très difficile par moments. Il n'y a pas que des succès, évidemment, il y a aussi des échecs. Et donc, il y a chez elle ce fond d'optimisme nécessaire qui est une sorte de protection vis-à-vis du réel.
Une vie d'indépendance aussi, qui la rend plus difficile.
Une vie de grande indépendance qui, malgré tout, et là aussi, on est bien obligé de repasser par la question du masculin et du féminin, est beaucoup plus difficile, assurément. D'autant que George Sand entretient, d'un point de vue financier, une maisonnée nombreuse, reçoit très généreusement, notamment, mais pas uniquement, à Nohant. Et donc, elle dit qu'il faut gagner de l'argent, et en quantité. Et dans certaines lettres, elle fait justement allusion au fait qu'elle doit être à la fois le père et la mère. Et que ça, c'est une position difficile. Et qu'elle est à la fois, justement, dans l'espace privé, dans l'espace public, et que c'est elle qui gagne de l'argent, mais que c'est elle aussi qui règle, justement, les questions de la vie quotidienne.
Et oui, il lui faut être le père, la mère, l'homme et la femme. Et ambiguïté supplémentaire, qui nous ramène à son enfance, il lui faut être à la fois une aristocrate par son père, et en même temps, une fille du peuple par sa mère. Racontez-nous un peu ses origines doubles qui conduisent à la personnalité de George Sand.
Oui, donc on peut rappeler qu'en effet, son père appartient à la petite aristocratie berrichonne, mais une aristocratie assez fortunée, puisque le domaine de Nohant constitue un ensemble de 200 hectares et que c'est une des très grosses propriétés berrichonnes de l'époque. Le Maurice Dupin, donc, et Dupin de Franqueuil, est officier et rencontre par ce brassage.
Alors, il descend quand même du maréchal de Saxe, le roi de Pologne.
Non, absolument. Il descend du maréchal de Saxe et sa mère, évidemment, très fière de ses origines. Et il rencontre à l'occasion des guerres napoléoniennes qui vont occasionner un brassage, évidemment, social absolument considérable, une femme de milieu très modeste, qui a peut-être d'ailleurs été prostituée. En tout cas, elle a eu des enfants hors mariage dont on ignore les pères.
C'est ce que George Sand sous-entend. Elle oui, dit elle était danseuse et moins que danseuse.
Oui. Et elle fait allusion au fait que vraisemblablement, parce qu'elle était de milieu très modeste et même à certains égards misérable, elle a pu ou dû se prostituer à quelques moments quand elle était plus jeune. Donc ça fait évidemment un mélange tout à fait exceptionnel. Alors George Sand va un peu construire une sorte de mythologie familiale et qu'on entend dans Histoire de ma vie, justement, son autobiographie. Elle va dire, voilà, je suis du sang des rois et je suis du sang du peuple. Elle est peut-être essentiellement tout de même vraiment une aristocrate parce que elle grandit à Nohant avec sa grand-mère et non plus avec sa mère. Et donc, les tiraillements qu'il y a et évidemment le fait que elle peut regarder autour d'elle et elle voit non seulement le monde rural en fonctionnement à Nohant, mais aussi le petit peuple de Paris. Il n'empêche que son regard reste celui de quelqu'un qui a reçu une magnifique éducation, qui a été dans un pensionnat chic de Paris, etc., qui fait un mariage, justement, qui épouse un petit aristocrate, lui aussi, etc. Donc, disons que le milieu dans lequel elle évolue est quand même celui d'une aristocratie de province qui a des relations partout, y compris à Paris.
Même si elle dira que son engagement politique vient justement de cette double appartenance à l'aristocratie et aussi au peuple.
Oui, je pense que ça, pour le coup, on n'est pas dans la mythologie. George Sand est peut-être, à mon sens, plus sensible encore à ce qu'elle voit petite fille à Nohant, parce que elle est entourée justement de paysans et le village de Nohant n'a pas beaucoup changé de ce point de vue. On a toute une série de petits villages dans le Berry. Elle a des amis paysans, elle court les champs avec eux, ce sont des épisodes très charmants qu'elle raconte toujours dans son autobiographie. Et donc là, elle a une conscience forte de la différence, bien entendu, et de l'état, de la condition, de la langue, des pratiques, de tout ce qui appartient justement au monde de ce qu'on appellera à peu près dans les années 40 le folklore, justement, quand il y aura un intérêt pour ça. Elle se rend compte qu'il y a à prendre la défense, en réalité, du monde monde rural. Ce qu'elle fera, et ce qui lui sera d'ailleurs reproché, c'est de ne pas s'intéresser au monde ouvrier, mais elle ne le connaît pas. Et justement, l'intérêt, c'est de la voir défendre essentiellement le monde rural.
Donc son père, aristocrate, sa mère peut-être prostituée, au moment où son père meurt, sa grand-mère, donc la mère de son père, décide d'une manière très troublante tout de même, de garder pour elle cet enfant qu'est George Sand.
Oui, alors la réflexe d'aristocrate précisément. Elle se dit que vivre à Nohant avec sa belle-fille qui est d'origine modeste et qui apparemment n'a pas du tout les manières et les façons qu'elle souhaite et se trouver donc obligée de la supporter au quotidien n'est pas imaginable. En revanche, imaginer que sa belle-fille et la petite-fille repartent à Paris n'est pas concevable non plus. Elle décide de garder sa petite-fille et de l'acheter en quelque
alors
sorte,
c'est ça, de l'acheter.
De l'acheter, je pense que... Alors la pratique n'est pas si inhabituelle que ça, historiquement, mais tout de même, bien sûr, les conséquences sont dévastatrices sur la petite fille. La mère se laisse faire parce qu'elle reçoit une pension qui va lui permettre de vivre à Paris et de ne pas travailler.
Et elle tombe dans ce qu'on aimait à l'époque appeler le spleen, la mélancolie, la dépression, jusqu'à... imaginer de se suicider à l'âge de 17 ans.
Tout à fait. Je pense qu'il y a chez George Sand, comme chez un certain nombre de grands écrivains, écrivaines, un fond de grande mélancolie, un fond dépressif.
Toute sa vie ou seulement du coup pendant son enfance?
Non, en réalité, au moins jusque dans les années 40. Et justement, le sentiment que j'évoquais tout à l'heure, la nécessité de se dessiner en quelque sorte d'un point de vue imaginaire une petite plage de bonheur parfait tient entre autres à cette position dépressive et à la nécessité d'en sortir de quelque façon.
J'ai abordé le château de Nohant le samedi gras vers 7h30 du soir et j'ai trouvé le camarade George Sand dans sa robe de chambre fumant un cigare après le dîner au coin de son feu dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles ornées des filets, des bas coquets et un pantalon rouge. Voilà pour le moral. Au physique, elle avait doublé son manteau comme un chanoine. Elle n'a pas un seul cheveu blanc malgré ses effroyables malheurs. Son teint bistré n'a pas varié. Ses beaux yeux sont tout aussi éclatants. Elle a l'air tout aussi bête quand elle pense. Car, comme je le lui ai dit après l'avoir étudié, toute sa physionomie est dans l'œil. Elle est à Nohant depuis un an, fort triste et travaillant énormément. La voilà dans une profonde retraite, condamnant à la fois le mariage et l'amour, parce que dans l'un et dans l'autre état, elle n'a eu que déception. Son mal était rare, voilà tout. Il le sera d'autant plus qu'elle n'est point aimable, et par conséquent, elle ne sera que très difficilement aimée. Elle est garçon, elle est artiste, elle est grande, généreuse, dévouée, chaste. Elle a les grands traits de l'homme. Ergo, elle n'est pas femme. Je causais avec un camarade. Elle a de hautes vertus, de ces vertus que la société prend au rebours. Nous avons discuté avec un sérieux, une bonne foi, une candeur, une conscience, digne des grands bergers qui mènent les troupeaux d'hommes, les grandes questions du mariage et de la liberté.
Un extrait d'une lettre d'Honoré de Balzac à sa maîtresse, Madame Anska. C'est une lettre en demi-teinte, Martin Reed, notamment quand il dit que Sand n'est pas d'un physique très aimable. Et pourtant, ils étaient amis, Balzac et Sand.
Oui, je pense que Balzac a réellement été fasciné par la personnalité de George Sand. Il lui a semblé que... elle était une sorte d'égal au féminin, ce qui était pour Balzac extrêmement difficile à penser. Et donc il a tendance à la ramener du côté du masculin en se disant, puisqu'elle est si intelligente et qu'elle a cette capacité de création qui équivaut à la mienne, alors de quelque manière, elle ne peut pas être une femme.
Mais cette lettre, elle n'est pas très élogieuse quand même.
D'abord, cette lettre, elle est adressée à sa maîtresse. Et sa maîtresse, on le sait, se méfie beaucoup de George Sand. Parce que tout de même, George Sand est bien une femme, n'en déplaise à Balzac. Et donc, Balzac prend quelques précautions, assurément, dans ce domaine. Maintenant, il est vrai que Balzac a, à l'égard de George Sand, une position assez ambivalente. Puisqu'il va, bien sûr, utiliser son personnage dans un certain nombre de romans. roman, il va même, chose tout à fait extraordinaire, imaginer que Georges Sand pourrait préfacer la Comédie humaine. C'est dire évidemment à quel point il l'estime intellectuellement. En même temps, il est assez persuadé que les femmes et la littérature, c'est quand même un mauvais mélange et que fondamentalement, justement, ce mélange n'est pas souhaitable.
Et puis il invente ce mot de sandinisme.
Il invente ce mot de sandinisme au passage parce qu'il a l'impression que, pour le meilleur et pour le pire, Sand pourrait lancer une sorte de mode et donc trouver des imitatrices en nombre.
Et ce serait quoi ce sandinisme? Quelle est la définition de ce mot?
Ce sandinisme serait de voir justement les femmes occuper en littérature une position semblable à celle des hommes et à se trouver de quelque manière, évidemment, militant pour une amélioration de leurs conditions, etc.
Et puis aussi une grande liberté des femmes par rapport aux hommes. En avril 1822, Georges Sand rencontre un jeune homme, il s'appelle Casimir Dudevant, c'est le fils, là encore, d'une servante et d'un colonel à la retraite, baron d'Empire, donc un petit peu comme elle, et il décide de se marier, il se marie le 17 septembre 1822. Que dire sur ce premier mariage et ce premier amour de Georges Sand qui va en précéder beaucoup d'autres?
On peut dire d'abord que ce sont les circonstances, des circonstances historiques bien connues, c'est-à-dire que Georges Sand vient d'hériter du domaine de Nohant, sa grand-mère est morte, elle a 17 ans et il faut absolument lui trouver quelqu'un et il faut qu'elle se marie. Et les pressions arrivent de toutes parts, les prétendants aussi, elle en refuse un certain nombre. À la fin, il y a ce jeune homme qui paraît de caractère enjoué, c'est l'ami d'amis, etc.
Donc c'est un vrai mariage quand même d'amour.
Oui, elle décider à se marier, à avoir des enfants. Jusque-là, il n'y a pas de remise en cause particulière. C'est l'expérience de la vie conjugale qui va lui faire comprendre à quel point c'est plus compliqué qu'elle ne pensait et que, au fond, elle n'est peut-être pas tout à fait faite pour le joug réel, prévu d'ailleurs légalement aussi par le Code civil, que suppose le mariage à cette époque.
Elle est en quête d'une autre vie. Et c'est pourquoi, après quelques années de ce joug que vous évoquez, Martine Reed, elle rencontre un très jeune homme qui a 19 ans, et ce jeune homme, c'est Jules Sandeau.
Georges Sand va rêver, je pense, toute sa vie du couple d'artistes. Et là, on a une espèce de fantasme personnel autour de la possibilité de faire couple avec quelqu'un qui est aussi artiste qu'elle. Il lui semble
c'est l'âme sœur qu'elle
c'est,
cherche.
Ah oui, c'est décidément l'âme sœur ou l'âme frère, on ne sait pas quel terme utiliser, mais en tout cas, elle imagine, et on verra le scénario se reproduire un grand nombre de fois, elle imagine qu'au fond, le seul couple qui pourrait fonctionner, c'est celui qui mettrait à égalité aussi les talents. Et donc, on aurait un talent masculin, un talent féminin, on aurait quelqu'un qui est doué pour la littérature, pour la musique, pour la peinture, et qui ferait couple avec elle.
Et qui serait plus jeune, peut-être un peu fragile, peut-être un peu féminin?
Peut-être encore qu'à des degrés divers. Je pense que l'intérêt peut-être serait, de voir ce partage des rôles, c'est-à-dire on est un peu masculin, un peu féminin, Georges Sand l'est à sa façon, les autres le sont aussi, et Sandeau a bien sûr à la fois, on retrouvera ça chez Musset, un comportement féminin, si on entend par féminin justement la douceur, etc., enfin toute une série de qualités supposées, et la même chose pour le masculin.
Et donc en 1831, elle quitte donc son mari, elle quitte aussi Nohant et elle part pour Paris. Et c'est là donc, on a commencé l'émission par cela, qu'elle devient Georges Sand.
Absolument, puisqu'il décide d'écrire à quatre mains, en quelque sorte. Il y a des premières publications communes, et puis un roman où là, Georges Sand va se voir sommé de choisir un nom à elle, et elle va donc choisir la combinaison qu'on évoquait tout à l'heure.
Et la suite de cette histoire, c'est après la chronique quotidienne, voici En compagnie des revues. En compagnie des revues avec aujourd'hui Éric Dussert du Matricule des Anges. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et le dossier du nouveau numéro du Matricule des Anges, eh bien il est consacré à un romancier bosniaque qui s'appelle Velibor Čolić, qui est arrivé en France avec seulement trois mots, mais pas n'importe lesquels, Jean, Paul et Sartre.
En effet, oui. Velibor Čolić arrive en France en 92. Il fuit la guerre de Yougoslavie. Et il arrive, j'allais dire, les mains dans les poches, avec ces trois mots et un désir de vivre. Mais il est apatride. Il a fui son pays. Il a surtout déserté l'armée bosniaque dans des conditions un petit peu délicates, voire dangereuses. Et il livre aujourd'hui ce qu'il a intitulé le manuel d'exil, dont le sous-titre est très explicatif, puisqu'il s'agit de comment réussir son exil en 35 leçons.
Et l'a-t-il réussi alors seulement ?
Apparemment, oui. Oui. Il a tout à fait réussi, puisqu'il écrit par exemple aujourd'hui en français, il n'est pas traduit du tout. Et donc ce fils de juge titiste et d'une mère au foyer plutôt adoratrice de Jésus, grandit dans une petite ville et il est d'une grande aisance scolaire et il n'est pas du tout destiné à ce qui lui arrive. Il fait partie de cette génération yougoslave qui se détache un petit peu des principes collectivistes. Il est plutôt fan de rock'n'roll et arbore un badge, par exemple. Il faut que je lise mes notes parce que je me souviens jamais du numéro. Et sur lequel il est inscrit article 133. L'article 133, c'est le numéro de l'article du code yougoslave dans lequel est décrit le délit verbal. Voilà, donc on est sur une génération qui veut s'émanciper, qui veut se dégager de la gang et qui va fuir. Donc il raconte dans le manuel son exil, et en particulier la séance en camp de prisonniers et la façon dont il s'échappe. Son livre contient également beaucoup de son enfance et cette sagesse populaire qu'il retient mélancoliquement un petit peu, où son père lui disait par exemple « le village natal ». Il ne faut jamais en partir, mais quand on en est parti, il ne faut jamais y revenir.
Alors, deuxième sujet, dans le matricule des anges, et qui est un témoin de l'intérêt en ce moment pour la Corée, c'est l'année France-Corée, le grand romancier Kwang Sok-yong, promu depuis 2002 par l'éditeur Serge Safran, revient avec un livre sur ses années de jeunesse, un livre qui est un roman initiatique et qui s'appelle « L'étoile du chien qui attend son repas ».
Un titre particulièrement inspirant, très asiatique, et qui couvre un roman à la fois délicat, assez violent. Et l'entretien qu'il a offert au Matricule des Anges est particulièrement intéressant, puisque non seulement il parle de son roman, je vous dirai une petite citation qu'il le décrit, mais il donne dans cet entretien quelque chose d'assez intéressant, une vision sur l'état réel, l'état moral, économique de la Corée, dont on ne se doute pas toujours forcément. Et là, je voudrais citer justement ce petit paragraphe. Il dit « Depuis plus de 10 ans, la Corée du Sud détient un taux de suicide record parmi les membres de l'OCDE. Il s'agit surtout de jeunes, y compris d'adolescents. Le phénomène n'est pas sans rapport avec le chômage, la précarité de l'emploi, le temps de travail trop important, les frais d'inscription trop élevés dans les universités. » Bref, on voit qu'on est dans un univers qui devient très très âpre et Kwang Sok-yong se montre à la fois très clairvoyant, très lucide, mais également dans le registre de l'autoportrait. Il revient sur sa jeunesse très compliquée. Lui aussi a dû combattre les communistes avec l'armée américaine. Une existence également très très troublée. Alors la littérature, me direz-vous, mais il a aussi quand même des commentaires très très littéraires, et en particulier celui-ci. Cela étant, dit-il rétrospectivement, la littérature coréenne a toujours été en crise et les écrivains n'ont jamais cessé d'écrire.
Et puis rapidement pour terminer, c'est une autre Asie qu'a visité la Norvégienne Erika Fatland. Son livre intitulé « Soviétistan » évoque des univers plus désertiques, plus démesurés et assez surprenants parfois, Eric.
On pourrait appeler ce livre Ubutistan ou Absurdistan.
C'est déjà pris Absurdistan.
C'est un peu pris déjà, effectivement. Elle a voyagé, cette jeune Norvégienne de 33 ans. Elle a voyagé dans les 5 ex-républiques soviétiques. Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, je vais en oublier, Kyrgyzstan et Ouzbékistan. Dans des mondes tout à fait... j'allais dire terre de contraste, c'est plutôt aisé comme formule, mais où l'on passe de l'extrême richesse et de la folie de dictateurs qui font construire des villes de marbre blanc au désert. Et là, on découvre donc des régions que nous connaissons très mal, en particulier cette région de Merv, qui était l'une des civilisations à l'égal de la Mésopotamie et de Babylone, qui a disparu dans les sables et qui serait important de redécouvrir aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup à vous, Éric Dussert. Cela donne très envie de lire tout ça. Tout cela, et bien plus encore, est à retrouver dans Le Matricule des Anges, actuellement en kiosque. Ah. C'est bien la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture et vous avez raison, notre semaine Georges Sand, elle commence tout juste et nous sommes dans le parcours biographique aujourd'hui avec Martine Reed, universitaire qui connaît sa vie sur le bout des doigts pour en avoir rédigé la biographie.
Pensez qu'elle inspira Chopin et Musset, que Delacroix avait chez elle un atelier, que Balzac venait demander à la camarade George Sand le sujet d'un de ses plus beaux livres, Béatrix, que Flaubert l'appelait ma chère maître et pleura quand il apprit sa mort, que Dostoïevski voyait en elle un écrivain presque unique par la vigueur de son esprit et de son talent, et vous comprendrez pourquoi. J'ai souhaité étudier avec vous une femme qui a été pendant une longue partie de sa vie une puissance spirituelle et qui est aujourd'hui trop peu.
Alors Martine Reed, nous avons laissé George Sand au moment où elle monte à Paris. Elle va donc publier Indiana en 1832, roman qu'on a comparé à La peau de chagrin de Balzac, avec raison pour vous.
Oui, c'est effectivement un roman, disons, d'inflexion plutôt réaliste, qui a le mariage pour sujet. La plupart des romans de Balzac tournent également autour de cette question. C'est un roman qui va se terminer, et là on a une différence évidente avec Balzac, par une sorte d'apologie de la vie sauvage, de la vie à l'extérieur, d'une sorte d'exotisme nécessaire pour échapper justement aux contingences et accablantes de la vie parisienne.
Est-ce qu'elle a trouvé là son style et son sujet en littérature? Parce que il n'était peut-être pas évident pour elle qu'elle allait devenir écrivain, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'elle voulait quand elle était enfant, le pouvait-on quand on était une femme aussi à cette époque-là, ce n'est pas sûr. Mais est-ce que vous avez l'impression que Sand est déjà là à ce moment-là avec Indiana?
Sand est déjà là, mais comme ça s'observe pour les grandes œuvres d'écrivains, en réalité, sa matière romanesque va évoluer avec le temps. Et donc, elle pose un certain nombre de jalons, comme on en trouve dans les premiers textes, justement, de Stendhal ou de Balzac, par exemple. Et puis, elle va travailler cette matière et elle va s'orienter dans différentes directions, puisque on a une soixantaine de romans avec des inflexions tout de même très diverses, plus ou moins politiques selon les moments, etc.
Et vous, qu'est-ce qui vous semble le plus important dans cette grande œuvre? Qu'est-ce qui est pour vous vraiment Sand?
Je pense qu'elle est partout. Ce serait une réponse facile, évidemment. On l'entend dans tous ses romans, puisqu'il y a des thèmes, évidemment, constants. Peut-être la chose la plus intéressante de ce point de vue, c'est sa capacité à, non seulement, elle a ce que Flaubert appelle le génie narratif, c'est-à-dire qu'elle sait planter très vite le décor, et puis ça y est, l'histoire commence, et le lecteur est accroché. Ou en tout cas, le lecteur de l'époque, puisqu'aujourd'hui, peut-être, nos modalités de lecture ont été un peu modifiées. Mais elle a cette capacité de construire des personnages féminins, en particulier, très autonomes. Et une des choses sans doute les plus remarquables, c'est que même dans des romans qui sont, je pense, familiers du grand public et qui ont longtemps paru des romans pour enfants, en réalité, comme La Petite Fadette, par exemple, elle construit des personnages de jeunes filles, ou parfois même déjà de petites filles, qui savent exactement ce qu'elles veulent et qui surtout vont souhaiter être l'égale des hommes qu'elles vont finir par épouser. Alors on a presque toujours chez Georges Sand des romans du mariage, en quelque sorte. Bien sûr, les amoureux vont se marier à la fin, mais l'originalité, c'est de montrer comment l'homme comme la femme arrive à égalité dans ce mariage. Il y en a qui sont instruits, ils instruisent les autres. Il y a des petites filles très savantes, elles vont faire l'éducation de celui qu'elles vont finir par épouser, etc. Financièrement, elles feront en sorte d'être à égalité.
Donc on ne comprend pas vraiment les romans si on n'a pas un peu une idée de la personne et de son engagement, c'est ça ?
Oui, je pense que c'est même pas tout à fait nécessaire, au sens où il transparaît tout de même dans les textes. Et si on est attentif justement à ces questions, notamment de la façon de représenter les héroïnes et du coup évidemment aussi les héros, le message passe somme toute assez bien.
Mais alors, quand on pense à George Sand, évidemment, on pense à ses multiples amants. Ses biographes ont beaucoup insisté, peut-être trop, sur toutes ces histoires d'amour, et notamment sur celle avec Musset. On peut revenir quand même sur ce très romanesque amour.
Tout à fait. Peut-être justement, une des choses les plus intéressantes, c'est que la liaison de George Sand avec Musset a été très médiatisée. Et c'est sans doute, dans l'histoire littéraire, une des premières à faire couler autant d'encre, puisque chacun a son mot sur cette affaire. Puisqu'ils écrivent, quand ils sont à Venise, le fameux épisode où ils sont à Venise, pendant quelques semaines, pour se déchirer dans les conditions que l'on sait.
Mais qu'on peut répéter.
Puisque George Sand, effectivement, se rend en décembre 1834.
Donc elle quitte Jules Sandeau,
ça fait un moment déjà qu'il a été évacué, ou en tout cas qu'il y a eu rupture. Balzac console d'ailleurs Jules Sandeau dans l'entretemps. Et puis, ils arrivent à Venise, et là, très vite, en fait, George Sand est malade, puis c'est au tour de Musset à être malade, et pendant que Musset est malade, George Sand fait venir un médecin italien, et tombe amoureuse de ce médecin, lui fait une déclaration par lettre, ils deviennent amants, et suite à quoi, et pour faire très vite une histoire un peu plus compliquée, assurément, Musset repart à Paris, et George Sand passe quelques mois à Venise, en compagnie de ce fameux Pagello.
Donc tout le monde connaît cette histoire, tout le monde commande cette histoire.
Tout à fait. Et donc tout le monde prend parti, les uns pour George Sand, les autres pour Musset. Et donc, dans le petit monde de la littérature parisienne, cette affaire est commentée inlassablement. L'un et l'autre ont parfaitement conscience de cela et en feront littérature. Ce qui est une autre particularité intéressante, c'est-à-dire que George Sand comprend bien que très très rapidement l'enjeu de la correspondance qu'elle a tenue avec Musset. Musset aussi. Du reste, Musset fait une réponse littéraire à cette liaison avec la fameuse Confession d'un enfant du siècle. Donc la littérature n'est pas absente et ça, je pense que c'est tout à fait remarquable, à vrai dire.
Mais ils se regardent un petit peu se déchirer, alors.
Jusqu'à un certain point, oui. Et mettent en scène, parce qu'ils sont écrivains tous les deux, très profondément, mettent en scène aussi cette sorte d'histoire mélodramatique dont on sait que Musset souffre, mais dont George Sand va souffrir énormément. Et il y a des pages désespérées, écrites, si je me souviens bien, au printemps 1835, alors qu'ils sont en train de se déchirer, qu'ils ont repris une liaison, ils l'ont abandonnée, etc. Il y a des va-et-vient pendant quelques temps. Et George Sand dit à quel point elle est réellement désespérée et à quel point aussi elle s'était fait de Musset l'idée de l'amant parfait avec lequel on ferait littérature, bien sûr.
Donc il y a toujours chez Sand la volonté d'être avec des artistes, Musset, mais aussi des musiciens, puisque la musique a dans sa vie une place très importante. Et ces musiciens, ce sont Liszt, Chopin. Elle se rêve une communauté d'artistes et de musiciens autour d'elle.
Oui, tout à fait. Et justement, on entendait Mauroy dire tout à l'heure que George Sand était certainement une de celles qui avait le mieux compris la musique. Je pense que, bien sûr, l'époque romantique parle musique, tous les écrivains parlent musique, et Stendhal le premier, par exemple. Mais il y a chez George Sand des compréhensions multiples de la musique qui sont tout à fait remarquable, exceptionnel assurément, et qui font qu'évidemment elle va être, Liszt le dit très bien dans sa correspondance, une interlocutrice parfaite pour un compositeur. Alors il y a d'abord son grand intérêt pour la musique de Liszt. Or Liszt, c'est de la musique contemporaine à l'époque, et Liszt ne fait pas l'unanimité, bien entendu. Et George Sand a reconnu son talent et clame partout qu'il est absolument génial. Et ensuite il y a la rencontre avec Chopin, et là il lui semble qu'elle tient le musicien par excellence, le compositeur, et elle va donc passer à avoir une liaison de 9 ans avec Chopin.
Oui, 9 ans, c'est beaucoup. C'est une vraie liaison qui a duré dans le temps et dans laquelle l'un comme l'autre se sont réellement investis. C'est pas comme avec Musset.
Non, ce n'est pas éphémère, une sorte de feu de paille très mélodramatique comme c'est le cas avec Musset. C'est une relation sentimentale, longue, un vrai compagnon personnages sur lesquels on a évidemment une série de documents, des lettres et ses propres considérations au fil des années sur Chopin.
Mais un compagnonnage qui n'est pas facile car Frédéric Chopin, on le sait, était dépressif.
Le pauvre grand artiste était un malade détestable. Ce que j'avais redouté, pas assez malheureusement, arriva. Il se démoralisa d'une manière complète. Supportant la souffrance avec assez de courage, il ne pouvait vaincre l'inquiétude de son imagination. Le cloître était pour lui plein de terreurs et de fantômes, même quand il se portait bien. Il ne le disait pas et il me fallut le deviner. Au retour de mes explorations nocturnes dans les ruines avec mes enfants, je le trouvais à 10 heures du soir, pâle devant son piano, les yeux hagards et les cheveux comme dressés sur la tête. Il lui fallait quelques instants pour nous reconnaître. Il faisait ensuite un effort pour rire et il nous jouait des choses sublimes qu'il venait de composer, ou pour mieux dire, des idées terribles ou déchirantes qui venaient de s'emparer de lui comme à son insu, dans cette heure de solitude, de tristesse et d'effroi. Il en était ainsi de son caractère en toute chose. Sensible un instant aux douceurs de l'affection et aux sourires de la destinée, il était froissé des jours, des semaines entières par la maladresse d'un indifférent ou par les menues contrariétés de la vie réelle. Et, chose étrange, une véritable douleur ne le brisait pas autant qu'une petite. Il semblait qu'il n'eût pas la force de la comprendre d'abord et de la ressentir ensuite. La profondeur de ses émotions n'était donc nullement en rapport avec leur cause. Quant à sa déplorable santé, il l'acceptait héroïquement dans les dangers réels et il s'en tourmentait misérablement dans les altérations insignifiantes. Ceci est l'histoire et le destin de tous les êtres en qui le système nerveux est développé avec excès.
Un extrait d'Histoire de ma vie, lu par Emmanuel Riva, dans lequel on se rend compte qu'elle est amoureuse avant tout de l'artiste. Et de son art, Martin Reed.
Oui, on est quand même très frappé en entendant justement cet extrait de la capacité qu'a Sand de nommer dans les plus petits détails ce que c'est qu'un tempérament d'artiste. Et là, on comprend que réellement, elle a une compréhension et une perception de la personnalité de Chopin qui est tout à fait exceptionnelle. Et on peut croire, pour les quelques brèves lettres qui restent, que Chopin l'avait compris et qu'il va effectivement dire que personne n'a jamais été aussi proche intellectuellement justement du personnage qu'il représente, de ce sorte de musicien de génie qu'il est dans les faits. Et malgré les dissensions et on sait l'éloignement progressif de y compris physique de Georges Sand et de Chopin, Georges Sand maintient jusqu'au bout que l'artiste est incomparable et que donc tout peut lui être pardonné parce que précisément il se met au piano. Il y a d'autres pages encore qui disent il se met au piano et tout est oublié parce que c'est sublime.
Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle le raconte justement dans Histoire de ma vie, c'est qu'elle décide, elle qui est une femme, et à une époque où ça ne se fait pas, d'écrire une autobiographie dans laquelle elle raconte ces choses-là, Martin Reed.
Oui, alors on pourrait nuancer au sens où certains disent que, à la différence de Rousseau par exemple, George Sand a été très discrète dans les questions sentimentales. Il s'en explique d'ailleurs dans Histoire de ma vie en disant qu'il ne s'agit pas d'aller raconter justement sa vie sentimentale. Il n'y a pas grand-chose sur Musset. Quand on lit Histoire de ma vie, on se demande même s'ils ont été ensemble à Venise. Mais en revanche, il y a une sorte d'hommage continu rendu à Chopin, qui d'ailleurs est mort peu d'années auparavant, un véritable hommage et un souci de boucler Histoire de ma vie, justement, par le rappel de cette liaison, de ce compagnonnage qui a été absolument déterminant, central dans la vie de George Sand.
Mais dans Histoire de ma vie, elle raconte tout de même des scènes extrêmement saisissantes, comme par exemple l'épisode nécrophile que son précepteur Deschartes lui a imposé quand elle était adolescente, quand elle avait 17 ans.
Oui, au moment de la mort de sa grand-mère, le précepteur a l'idée, dans une espèce de vision parfaitement macabre et shakespearienne, de la mettre en contact avec la mort en la forçant à regarder, au moment où la grand-mère donc est enterrée dans le petit cimetière de Nohant, à regarder l'état dans lequel se trouvent les tombes environnantes. Et donc elle aurait eu le crâne de son père entre les mains.
Il aurait détaché de son corps le crâne de son père pour lui donner
alors vraiment une vraie scène de d'Hamlet. Elle raconte ça, en effet.
Alors ça, c'est quand même une scène extraordinaire, comme il y en a beaucoup dans Histoire de ma vie. On y découvre aussi son amour pour le théâtre. Est-ce que pour vous, le théâtre, c'est aussi important que les romans? Et puis, ce serait bien si vous pouviez nous dire un petit peu cette ambiance à Nohant, où on faisait du théâtre entre amis, après, du temps de Chopin aussi, mais surtout après Chopin, du temps d'Alexandre Manceau, qui sera donc son dernier amant.
On peut rappeler que, évidemment, tout le monde va au théâtre tout le temps à Paris dans les années 30 et que George Sand, qui appartient justement au milieu des artistes, comme on les appelle à l'époque, va très régulièrement au théâtre. Elle est fascinée par les rôles masculins et féminins et sa liaison brève avec Marie Dorval est notamment
qui était actrice,
qui est la grande actrice romantique, une des grandes actrices romantiques en particulier, justement, qui interprète les rôles de Vigny, par exemple, elle est réellement fascinée par ce type de personnalité. Ça, c'est un premier temps, disons. Le second qu'on peut rappeler, c'est le fait que rapidement, à Nohant, se dessine la volonté de construire un petit théâtre de société, comme ça existait
vraiment,
au XVIIIe siècle.
Avec une scène.
Oui, avec une scène véritable, un théâtre miniature, en quelque sorte, qui va avoir divers usages. Le premier, c'est de se donner la comédie pour le plaisir, c'est-à-dire d'imaginer des scénettes dans lesquelles chacun a des rôles, les invités ont des rôles. George Sand est sur les planches, elle aussi, dans le rôle d'une femme de quelque type qu'elle a imaginé. Parfois, il y a d'ailleurs des gens du village qui assistent à ces représentations. Et puis, petit à petit, en particulier sous le Second Empire, elle va elle-même écrire des pièces de théâtre et imaginer que le théâtre de Nohant peut servir en quelque sorte de scène pour répéter avant la production sur la scène parisienne un certain nombre de pièces de théâtre qu'elle a imaginées pour tester les répliques et ce genre de choses. Donc il y a une activité théâtrale très considérable assurément.
Et que donc Alexandre Manceau, là encore amant plus jeune qu'elle, va orchestrer jusqu'à sa mort. George Sand termine sa vie relativement seule, avec son fils. Sa fille s'est un peu éloignée d'elle, ils se sont brouillés. À quoi ressemblent ces dernières années de George Sand, de Martin Reed?
Les dernières années de George Sand, si on en croit la correspondance, sont apaisées après le grand chagrin. Et là aussi, les lettres sont éloquentes que représente le décès tout à fait prématuré, puisque Alexandre Manceau, qui est graveur de son métier, à l'âge de son fils, et il meurt de la tuberculose, si je me souviens bien, alors qu'il a une quarantaine d'années ou un peu plus. Après ça, elle rentre à Nohant et décide d'occuper la place de la grand-mère dynamique. Son fils se marie, a deux petites filles dont elle va s'occuper. Tout ce monde-là vit ensemble et on continue les activités théâtrales, les spectacles de marionnettes, les réceptions réception d'amis de toutes sortes, essentiellement des hommes politiques à ce moment-là, notamment. Et donc, il y a en fin de vie une sorte de situation dont elle dit qu'elle en est en réalité très satisfaite et qu'elle a obtenu une sérénité de quelque sorte, alors qu'elle continue évidemment de publier massivement, puisqu'elle meurt alors qu'elle a un roman en chantier, le dernier qui ne sera pas achevé.
Et elle meurt à 71 ans, c'était le 8 juin 1876, il y a presque 140 ans, presque jour pour jour, il y a 140 ans, presque jour pour jour, Martine Reed.
Oui, tout à fait. Donc, elle meurt dans des conditions tout à fait difficiles, vraisemblablement d'un cancer, et elle meurt à Nohant, entourée de ses proches. Et ensuite, elle est enterrée dans le jardin de Nohant, qui jouxte le petit cimetière du village. Et c'est toujours là, d'ailleurs, qu'on peut voir la tombe de George Sand.
Eh bien, merci beaucoup, Martine Reed, pour ce survol trop court de la vie passionnante d'Aurore Dupin, alias George Sand. Tout de suite sur France Culture, la poésie.
Holy, holy, holy.
Car comme chaque jour, nous terminons cette émission par des lectures de Jacques Bonafé. Cette semaine, il nous propose d'habiter poétiquement le monde. Une citation d'Hölderlin qui n'est pas une proposition au SDF qui sommeille en chacun de nous, nous explique Jacques Bonafé, mais bien, dit-il, une visée exaltante.
La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Paul Valéry en 1910. Bonjour. Furetant dans les rayons poésie, nous tombons sur un nouvel éditeur, Poésis, qui publie un volume manifeste « Habiter poétiquement le monde », selon la formule de Hölderlin. Ça commence par le monde romantique allemand, et puis on va vers la France, avec Alfred de Vigny, par exemple. La poésie, c'est l'enthousiasme cristallisé. Citation du journal d'un poète, 1837-1843. La poésie est beauté suprême des choses et contemplation idéale de cette beauté. Oui, la poésie est une volupté, mais une volupté couvrant la pensée et la rendant lumineuse par l'éclat de son cristal préservateur qui lui permettra de vivre éternellement et d'éclairer sans fin. Ah, mais trêve de citation, plongeons dans le texte Alfred de Vigny, La maison du berger, et non pas La mort du loup que nous cite Isabelle Huppert dans son choix pour la revue Le parti pris des mots, poète du XXe siècle, où y sont invités des stars, Gérard Depardieu, Lucchini, Marc Dugain, qui donnent leur choix de poète du XXe siècle, il faut le croire. On a Baudelaire, on a Rimbaud. On a donc Alfred de Vigny et d'autres comme ça. Je suis pas toujours sûr que les grands acteurs rendent un vrai service à la poésie. Mais trêve de digression, si ton corps, frémissant des passions secrètes, s'indigne des regards timides et palpitants, s'il cherche à sa beauté de profonde retraite pour la mieux dérober aux profanes insultants, si ta lèvre se sèche au poison des mensonges, si ton beau front rougit de passer dans les songes d'un impur inconnu qui te voit et t'entend, pars courageusement, laisse toutes les villes, ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin, du haut de nos pensées vois les cités serviles comme les rocs fatales de l'esclavage humain, les grands bois et les champs sont de vastes asiles, libres comme la mer autour des sombres îles, marche à travers les champs une fleur à la main. La poésie n'est pas un art, mais un enthousiasme, disait Platon. Le talent vient de la nature ou du ciel. C'est une citation de Joseph Joubert, 1754. On ne peut trouver de poésie nulle part quand on n'en porte pas en soi. Un poète est une espèce de rossignol, un animal lyrique ou musical. Il sait ce qu'il ignore. Joseph Joubert. La poésie est-elle possible dans une société qui laisse envahir ses conduites, son enseignement, sa parole par les mots de la technologie, du commerce? Ceux qui ne savent plus l'infini qui est intérieur à l'objet naturel, et incite donc un autre infini, celui du rêve, à se déployer, mais bien pauvrement, parmi les stéréotypes publicitaires. Pour Yves Bonnefoy, la poésie doit réintensifier l'être au monde. Ne va-t-elle pas être repoussée toujours plus vers le monde des marginaux que l'on prive de responsabilité autant que de moyens d'existence ? On peut certes craindre pour l'avenir de la poésie quand les journaux nous donnent à douter chaque jour de tout simplement l'avenir de la vie humaine sur sa planète polluée.
C'est si Paradise Lost, ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Ainsi s'achève ce premier numéro d'une compagnie des auteurs consacrée à George Sand, un premier épisode avec Martin Reed, que je remercie chaleureusement d'être venu nous voir et dont je rappelle que la biographie de George Sand est disponible en folio. Je vous la recommande. Demain, nous continuons de parler d'elle. Ce sera avec l'historienne Michel Perrault. Nous aborderons tout un pan important de la vie de George Sand et de son œuvre, à savoir le rapport avec la politique. Cette émission est disponible en podcast et à la réécoute. En ligne. Nous sommes également présents sur Facebook et Twitter, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça nous fera plaisir. À la réalisation, c'était David Jacubo-Viez, à la console Claire Levasseur. Merci à Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Pascaline Bonnet, Sophie Lombarès, sans qui rien ne serait possible. Dans un instant, Continent Science, Stéphane Delisgeorges sur France Culture.